autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation. Nous allons aujourd'hui pénétrer l'intérieur des pyramides. Les pyramides d'Égypte sont parmi les plus fabuleuses constructions humaines et elles recèlent encore beaucoup de mystères. Comment voir l'intérieur des pyramides? Quel est le secret de leur construction? Peut-on les explorer sans les détruire? Un projet révolutionnaire permet aujourd'hui de sonder ces constructions en captant des muons, des particules qui viennent du ciel et qui peuvent traverser de grandes épaisseurs de roches. Ce projet mêle aussi la science à l'art, au dessin et même à la musique. Partons pour un voyage dans le temps où les technologies les plus modernes éclairent le savoir-faire de l'Antiquité, où la technique et la poésie s'enrichissent mutuellement en compagnie de nos deux invités, Mehdi Taïoubi et Françoise Keuchten. Mehdi Taïoubi, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes co-directeur de cette mission scientifique Scan Pyramide. En quelques mots, de quoi il s'agit?
Alors c'est une mission effectivement scientifique, mais qui aussi mêle l'art et la technologie. Et c'est une mission qui vise en fait à mieux comprendre les pyramides de l'Ancien Empire, les quatre grandes pyramides de l'Ancien Empire.
Donc elle a été lancée en 2015 et on a déjà des résultats qui sont tombés récemment, fin 2016.
Absolument. C'est une mission qui a été lancée le 25 octobre 2015 et pour le premier anniversaire de la mission, c'était une mission qui devait durer une année. Pour le premier anniversaire de la mission, nous avons annoncé la découverte de deux cavités dans la grande pyramide de Khéops.
On y reviendra. Donc, Françoise Keuchten, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous, dessinateur, c'est une rencontre a priori assez improbable entre le monde de la science et le monde du dessin. Donc, vous avez publié de nombreux albums. On peut citer, par exemple, les cités obscures, les terres creuses. Vous avez une vision qu'on peut qualifier un peu futuriste, assez axée, ancrée sur l'architecture aussi.
C'est vrai. Et c'est vrai que naturellement, on ne peut pas ne pas être fasciné par un lieu comme les pyramides d'Égypte. Quand on est face à ça, et on a passé du temps avec toute l'équipe de Mehdi, on est tous extrêmement sous le charme, sous un sentiment d'être dans un lieu unique au monde.
Mais comment est venue cette rencontre entre le monde de l'archéologie, de la physique des particules, on va y venir, et puis le monde du dessin?
En fait, c'est François et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années chez Dassault Systèmes, où je dirige une équipe en fait qui s'occupe d'innovation. Et la question était pour nous de savoir comment faire sortir nos ingénieurs de leur domaine de vol traditionnel en les confrontant à de nouveaux types de nouvelles problématiques. Et une idée nous est venue à l'époque, c'était d'imaginer des projets en coproduction avec les artistes pour nous obliger justement à nous poser de nouvelles questions, à inventer de nouvelles choses. Et François a fait partie de ces artistes avec lesquels nous avons collaboré chez Dassault Systèmes.
Donc autour de la question, comment sonder les pyramides pour se mettre dans l'ambiance, ce petit mix d'Apolline Verlon-Raison.
C'est une grande première scientifique qui vient d'être annoncée en Égypte.
Le but du projet Scan Pyramide.
Pour analyser l'intérieur des pyramides, les scientifiques utilisent désormais des détecteurs à muons.
Des pyramides d'Égypte nous révéleraient-elles un nouveau secret?
Je pense que cela marque le départ d'une nouvelle science, d'une nouvelle recherche pour tous les égyptologues et particulièrement pour les scientifiques spécialisés dans l'architecture.
On espère que on va pouvoir mettre en valeur, s'il y en a, des cavités, des rampes, des tunnels ou toutes sortes de choses qu'il pourrait y avoir sous la surface.
Pour nombre d'archéologues, Khéops enfermerait une chambre funéraire secrète. Et pourquoi pas celle de Néfertiti, reine de la beauté, qui aurait emporté avec elle 5000 pièces d'or.
Donc c'était un petit mix de différents reportages. Ça vous a fait réagir, Mehdi Taïoubi?
Oui, absolument, parce qu'en fait, au même moment où on lançait la mission Scan Pyramide, il se trouve qu'un égyptologue anglais du nom de Nicolas Reeves a émis une théorie sur la présence probable du tombeau de Néfertiti au sein du tombeau de Toutankhamon. Néfertiti Toutankhamon, on est quelques milliers d'années après la construction des pyramides. On est dans la vallée des rois à Louxor, et c'est vrai qu'il y a eu quelques confusions dans les médias entre le projet Scan Pyramide et, j'ai envie de dire, le projet Toutankhamon Néfertiti. Donc, ouais. Néfertiti dans les pyramides, c'est impossible.
On ne sait pas où elle est.
Néfertiti, on ne sait pas où elle est. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle ne se trouve pas dans les pyramides et que le projet Toutankhamon n'a rien à voir avec le projet Scan Pyramide.
Donc, Françoise Coyten.
Oui, non, mais ça, c'est un petit peu ce qui arrive parce que l'Égypte fascine toujours, mais hélas, on en fait parfois une drôle de bouillie. Et donc, c'est vrai que c'est notre travail aussi. C'est d'arriver à essayer d'être sur des données très simples, très modestes, mais très claires. Et un petit peu empêcher les délires. Et il y en a pas mal sur les pyramides.
Oui, alors justement, on entend souvent parler des pyramides, on croit parfois les connaître, hein, mais à tort. Hein. Et alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter les pyramides, et je pense quand même que c'est la plupart, il s'agit de la plupart des auditeurs. Hein. Et est-ce que vous pouvez décrire déjà comment ça se passe? Est-ce qu'on peut entrer dans les pyramides quand on est un simple touriste?
Alors absolument, aujourd'hui quand on est touriste, qu'on va sur le plateau de Gizeh, on peut visiter les trois pyramides qui s'y trouvent, c'est-à-dire la pyramide de Khéops, la plus grande, la pyramide de Khéphren et la pyramide de Mykérinos.
Donc il y a des tunnels, mais qui ont été faits à l'époque par ceux qui ont construit les pyramides ou qui ont été faits ultérieurement?
Alors, on emprunte des couloirs qui ont été construits à l'époque où ces pyramides ont été érigées. Mais par exemple, pour la pyramide de Khéops, tous les touristes rentrent par ce que l'on appelle l'entrée des voleurs, empruntent un couloir qui a été creusé au sein de la pyramide, qui s'appelle le couloir d'Al-Mamoun, le calife qui, au Moyen-Âge, sans doute cherchant un trésor, a fait creuser en fait ce couloir. Et à l'époque, de ce couloir-là, en fait, sans doute à cause de l'acoustique, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient bifurquer et rejoindre un couloir qu'on appelle le couloir descendant et qui, lui, date de l'époque de la pyramide. Donc on emprunte ce couloir d'Al-Mamoun, on bifurque à un moment donné, on rejoint le couloir ascendant qui nous mène vers la grande galerie qui est une sorte, je vais dire, de cathédrale interne qui fait 8,60 m de haut. On emprunte donc cette grande galerie qui nous mène ensuite vers la chambre du roi où on pénètre après s'être penché dans ce parallépipède quasi parfait.
C'est un parcours qui est assez physique, mais qui est très 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 étonnant, très émouvant, parce qu'il y a une acoustique très particulière à chaque moment. Entre l'entrée des voleurs, on sent un peu le chaos de ce qui a été forcé, je dirais. Et puis brusquement, ce couloir assez haut qui nous fait monter vers la chambre du roi, qui lui est très impressionnant et qui a aussi, elle, une lumière, une acoustique.
Oui, on y reviendra justement sur l'acoustique de la chambre du roi. Mais déjà, pour présenter un petit peu les choses, Khéops, la pyramide de Khéops, l'une des sept merveilles du monde, 230 mètres de côté, 147 mètres de hauteur, l'un des plus grands monuments jamais construits par l'homme. Alors, vous, Françoise Coyten, donc en tant que dessinateur, ça vous a fait quelle impression la première fois que vous avez vu ces pyramides, c'est le regard du dessinateur qu'on interroge là.
Ben on est très 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 intimidé parce que c'est un lieu qu'on a l'air de connaître tellement bien, parce qu'on a vu tellement de reportages, de photos, et en même temps, il est très très difficile à dessiner. Parce que quand on s'éloigne, c'est la chose la plus simple qui soit, ce sont deux lignes qui se rejoignent, mais dès qu'on s'approche trop, c'est le chaos de pierre. Vous savez même plus où vous êtes parce que vous commencez à dessiner une pierre, vous savez plus où elle est. Et donc pour arriver à saisir, à donner le sentiment de cet espace, de ce lieu et de cet objet, eh ben il faut beaucoup tourner autour, il faut y revenir à plusieurs reprises pour arriver à savoir comment on l'attaque.
Oui, et cette relation entre les scientifiques et puis les dessinateurs est finalement assez ancienne, puisqu'elle remonte à la campagne d'Égypte de Bonaparte, qui dans ses bagages était venu avec des savants et également des dessinateurs. C'est ça que vous avez voulu remettre en place, Mehdi Taïoubi, dans l'expédition Scan Pyramide ?
Effectivement, il y a eu l'expédition militaire, mais avant tout, on se souvient de ce qu'a fait Bonaparte et de ce coup de génie d'emmener avec lui à la fois des scientifiques, des artistes, des dessinateurs, des architectes. Et c'est suite à cette première expédition que la discipline de l'égyptologie a été inventée, que Champollion ensuite a pu déchiffrer les hiéroglyphes. Mais avant tout, ce projet, au-delà des pyramides, c'est une manière de montrer que c'est pas parce qu'un mystère a 4500 ans qu'on ne peut pas aujourd'hui essayer de le résoudre, mais tenter de résoudre ce type de mystère, c'est un projet aussi qui est un projet symbolique, un projet qui doit faire rêver et démontrer aujourd'hui que l'interdisciplinarité est extrêmement importante dans toute stratégie d'innovation.
Ouais, alors justement, on va développer ça, cette interdisciplinarité entre des scientifiques, des dessinateurs et même des musiciens, puisque vous avez aussi dans l'expédition, enfin dans la mission Scan Pyramide, Nicolas Gaudin, un musicien du groupe R et dont on va écouter un morceau, hein. Widerstand dort der Sünde, excusez mon accent allemand, résiste au péché. Un morceau de Nicolas Gaudin. Donc c'est assez étonnant à cette rencontre entre des archéologues, des physiciens des particules, des dessinateurs, hein, François Skuyten. Alors vous avez travaillé avec Nicolas Gaudin sur les pyramides.
Alors on est en cours, on est en train d'élaborer un petit peu un esprit, une idée. Ce qui était intéressant, c'est que Nicolas Gaudin adore l'architecture, il est très sensible aux espaces. Je l'avais rencontré au Musée des Beaux-Arts de Lille, j'avais vu comment il dialoguait avec les lieux. Et donc l'idée est venue avec Mehdi de lui proposer de réagir un petit peu. Il s'est tout de suite, lui, intéressé à l'acoustique. Ah et oui. Là, on lui a dit, la Chambre du Roi, c'est une acoustique très particulière, très très étonnante. Et vous auriez dû le voir dans cette Chambre du Roi, essayer de faire des essais de voix, de voir des...
Ah ben on va écouter ça en deuxième partie, d'accord. Justement, on a prévu d'en parler en deuxième partie. En tout cas, donc c'est une écoute hein, des pyramides, on peut les étudier, les voir. Alors justement, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, comment voir ce qui se passe à l'intérieur des pyramides. On pourrait croire que finalement c'est assez facile, on a des rayons X, on a des méthodes comme ça. Et pourquoi les rayons X, les ultrasons, ça ne marche pas pour sonder l'intérieur des pyramides, Mehdi Taïoubi?
Alors, il faut imaginer qu'une pyramide, c'est finalement une montagne de pierres extrêmement massive. Et aujourd'hui, toutes les techniques de type radar ou rayon X ne permettent pas de voir très loin, ne permettent pas de voir en profondeur. Et la dernière mission non-invasive qui a eu lieu sur les pyramides pour essayer de détecter des cavités
non-invasives, c'est-à-dire ne pas détruire la pyramide.
L'objectif, bien entendu, voilà. C'est de ne surtout pas toucher à la pyramide, ne surtout pas détruire la pyramide, de ne pas faire comme ce qu'a fait le calife Al-Mamoun quand il a creusé et créé ce conduit, puisque finalement, ce que l'on connaît, la coupe que l'on connaît aujourd'hui de la pyramide, c'est-à-dire la chambre du roi, la chambre de la reine qui est en dessous, la chambre souterraine et toute l'organisation interne de la pyramide, est connue depuis le Moyen-Âge et cette coupe n'a quasiment pas évolué depuis cette époque.
Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, on n'hésitait pas à creuser à l'intérieur des pyramides et c'est comme ça qu'on a découvert des cavités. Mais aujourd'hui, évidemment, on ne fait plus ça.
Absolument. Voilà. Aujourd'hui, on ne touche l'objectif de la mission Scan Pyramide était de réunir les meilleures équipes scientifiques qui maîtrisent différentes techniques dites non invasives, non destructives.
Alors, pour en revenir aux rayons X, ça ne suffit pas, ça ne va pas. Ces rayons-là ne vont pas assez loin dans la pyramide pour détecter
et pour analyser une montagne. Il faudrait des émetteurs de rayons X, qui n'existent pas aujourd'hui. D'où cette idée qu'ont eu un certain nombre de scientifiques. Et déjà dans les années 60, le professeur Alvarez, qui était prix Nobel de physique, avait eu l'idée d'utiliser ce rayonnement cosmique qui est fait de particules qui viennent de la stratosphère, qui sont les muons, et qui vont se comporter comme les rayons X, sauf que là, on a une pluie de muons naturelle qui tombe en permanence sur nous, et cette pluie, en fait, va réagir différemment en fonction des densités qu'elle traverse.
On va y revenir.
Comme chez le docteur.
Voilà, on va développer ça tout de suite après le journal, mais auparavant, alors... Parlez-nous un petit peu de cette mission Scan Pyramide. Vous avez étudié 4 pyramides précisément. Alors, où exactement? Dans quelle région d'Égypte?
Alors, l'objectif est d'étudier les 4 grandes pyramides de l'Ancien Empire, c'est-à-dire des pyramides qui ont été construites pratiquement par la même famille, où on suppose que les procédés de construction se sont transmis de pyramide en pyramide, que certaines personnes qui ont travaillé sur une pyramide ont pu travailler sur une autre, et en se disant que si une de ces pyramides nous révèle quelque chose quant à sa structure, ça peut nous permettre de mieux comprendre le principe constructif, puisque la construction des pyramides, des grandes pyramides d'Égypte, reste à ce jour un mystère.
Oui, donc alors il y a la pyramide rhomboïdale, la pyramide rouge, la pyramide de Khéops et la pyramide de Khéphren. Ce sont les 4 pyramides que vous avez étudiées.
Alors, à ce jour, nous n'en avons étudié que 2. C'est-à-dire que sur une année, on s'est rendu compte, et c'est le terrain qui a toujours raison, c'est que compte tenu aujourd'hui des contraintes techniques qui, pour certaines, sortent tout juste des laboratoires de recherche fondamentale, eh bien qu'il nous fallait beaucoup plus de temps. Donc à ce jour, on a utilisé la pyramide rhomboïdale et nous sommes en cours d'étude de la pyramide de Khéops.
Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que sonder les pyramides, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur des pyramides peut aussi éclairer la façon dont elles ont été construites, puisque cela reste encore un mystère. François Skuyten, vous, dans votre regard d'artiste, vous vous intéressez aussi à cette construction encore mystérieuse. Est-ce que vous pouvez, en dessinant les pyramides, imaginer comment elles ont pu être construites?
C'est là où le dessin peut avoir un rôle. C'est curieusement, quand on passe beaucoup de temps dans les détails, on passe parfois 3-4 heures devant un détail, enfin des appareillages. Du coup, le dessin tient compte aussi du changement de lumière et ça apporte quelque chose. Oui, ça apporte quelque chose à l'équipe, c'est un dialogue. Mais ce qui est fascinant avec les pyramides, c'est qu'on voit bien que nous sommes sur des processus de construction très très sophistiqués, que d'ailleurs certains ne comprennent toujours pas bien, et pour ça qu'il y a parfois des explications un petit peu loufoques qui interviennent, mais qu'on voit que ce processus est d'une précision. Quand on voit comment les pierres ont été amenées dans la chambre du roi, vous ne mettez pas une feuille à papier à cigarette entre les pierres qui font parfois 2 mètres de haut et qui sont parfaitement droites. Il y a là donc une prouesse de technique d'ingénierie qui montre un niveau de savoir-faire extraordinaire. Mais pensez à où nous en étions, nous, dans nos régions, à ce moment-là. C'est vertigineux.
Mais dites Ayoubi, vous me disiez justement que les pyramides ne sont pas constituées uniquement de blocs bien posés les uns sur les autres et qu'il y avait aussi à l'intérieur des tas de pierres assez chaotiques. Et c'est pour ça aussi que les méthodes comme les rayons X ne fonctionnaient pas.
Le radar aujourd'hui, effectivement, avec les petits blocs qui peuvent se trouver en fait vers l'intérieur de la pyramide, il faut imaginer qu'on a une sorte de ceinture de blocs parfaitement taillés, mais qu'à l'intérieur de la pyramide, on a du remplissage un peu avec du tout venant. Et on n'a pas une cartographie exacte de ce qui se trouve à l'intérieur. Et le radar est une technique qui ne marche pas très bien quand on est dans des éléments comme ça qui ne sont pas homogènes. D'où l'intérêt aussi de la myographie.
Et ces méthodes qui font appel à ces muons, dont on va parler après le journal, datent de combien de temps, d'il y a combien de temps à peu près?
Ça fait plus de 50 ans qu'on connaît les muons. Ça fait très longtemps que les physiciens des particules ont des détecteurs de muons pour les accélérateurs de particules et étudier justement le comportement de ces particules et émettre des théories en physique. Mais ça fait, on va dire, une vingtaine d'années aujourd'hui que la myographie se développe à grands pas, notamment au Japon. On a utilisé la myographie, par exemple, pour essayer de radiographier les volcans ou radiographier la centrale Fukushima.
Radiographier les pyramides, hein. Comment sonder les pyramides, découvrir les cavités, c'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, Mehdi Taïoubi et François Skuyten. Tout de suite après le flash d'info, on se retrouve autour de la question « Comment sonder les pyramides ?»
Au foot international. Autour de la question. Antonio Fischetti.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Comment sonder les pyramides ?» avec nos deux invités, Mehdi Taïoubi et François Skuyten. Donc, nous allons justement parler de cette technique révolutionnaire, en fait. Hein, comment sonder les pyramides avec des particules cosmiques. Mais auparavant, écoutons Sébastien Procureur, responsable scientifique à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est un reportage de Charlie Dupio.
Alors le télescope qu'on voit ici, mais il faut s'imaginer une grande boîte rectangulaire vert kaki.
Ça fait à peu près notre hauteur, une hauteur d'homme.
Oui, celui-là fait à peu près 1m80. Dans le labo, en fait, c'est un ensemble de 4 détecteurs, donc c'est les planches qu'on voit ici, qui font 50 cm de côté, donc c'est assez grand. 4 détecteurs de particules, parce que le muon est une particule chargée. Donc c'est des détecteurs qui sont remplis de gaz à base d'argon. Et quand un muon va traverser les différentes plaques de détection, il va laisser un petit signal électrique dans le gaz. Alors, un muon, donc c'est une particule élémentaire au même titre que l'électron, le proton. Et donc, c'est des particules qui sont produites naturellement dans l'atmosphère et qui tombent au niveau du sol, là où on se trouve. Si on pointe effectivement vers une pyramide ou une autre structure, en fait, il va y avoir deux types de muons. Il y a ceux qui vont réussir à traverser parce qu'ils auront eu suffisamment d'énergie au départ pour traverser la pyramide, et ceux qui n'auront pas eu assez d'énergie et qui donc vont s'arrêter, ça veut dire que dans le télescope qui est derrière, en fait, on ne les verra pas. Donc ce qu'on reconstruit au final, c'est une espèce de négatif de l'objet, c'est-à-dire que quand il y a des zones denses ou épaisses de matière, il y a plus de muons qui vont être absorbés, donc nous, derrière, on en verra moins. Et inversement, s'il y a une cavité, par exemple, ou enfin des vides en général, ou des sous-densités, à ce moment-là, il y a plus de muons qui vont réussir à traverser sans être absorbés, et on détectera plus de muons dans la direction en question. En fait, c'est de l'imagerie pénétrante avec un rayonnement naturel. Donc, c'est ce qu'on appelle de la muographie, donc par analogie avec la photographie. Simplement, au lieu d'utiliser les photons de lumière, on utilise des muons. La grande différence par rapport à la photographie, c'est qu'effectivement, on peut avoir une information, une image de la structure interne d'un objet, alors qu'en photo, on voit que l'extérieur.
Vous vous retrouvez dans ce projet un peu par hasard. Quels espoirs vous avez pour l'avenir de ce projet-là ?
Ce projet-là, c'est une fantastique occasion de marier un petit peu archéologie et physique. Enfin, les deux disciplines ont pas mal de choses à apprendre l'une de l'autre. Ce qui nous motive aussi, nous, c'est de développer des instruments qui sont vraiment très innovants. Donc c'est un moyen pour nous de les tester dans des conditions assez extrêmes de température, d'isolement, de poussière, etc. pour ensuite aller vers d'autres applications.
Mehdi Taïoubi, vous travaillez avec Sébastien Procureur du CEA qu'on vient d'entendre.
Absolument, Sébastien et son équipe de l'Institut de Recherche Fondamentale des Lois de l'Univers au CEA nous a rejoint quand il a appris que la mission était lancée en octobre 2015. Il a appris qu'on travaillait déjà avec deux équipes japonaises qui maîtrisent d'autres types de techniques de myographie, c'est-à-dire le KEK qui maîtrise une technique à base de scintillateurs fait d'un plastique qui lui est sensible au muon. Le CEA dispose, lui, de capteurs à base de gaz, comme l'expliquait Sébastien, qui est un gaz donc qui est aussi sensible au muon. Et puis une troisième équipe, celle de l'Université l'université de Nagoya, qui a développé en fait des émulsions chimiques qui ressemblent aux émulsions de la photo argentique, qui enregistrent aussi des traces de muons. Donc voilà, on a trois équipes aujourd'hui qui travaillent sur la myographie.
Pour bien comprendre, on peut dire que ces particules viennent du ciel, et c'est un peu comme de la pluie, et puis on a des capteurs, et plus il y a de pluie, de particules qui tombent, plus il y a de cavités finalement à l'intérieur de la pyramide. Ça permet de voir à l'intérieur de la pyramide d'une certaine façon, en recueillant cette pluie.
Effectivement, en fait, on recueille les traces que laisse cette pluie, qui est une pluie naturelle et continue. Si cette pluie traverse en fait des zones très denses, eh bien, elle va être moindre, c'est-à-dire que les muons vont être absorbés, ils vont perdre leur énergie. Et s'ils passent à travers des vides, on aura plus de muons. Et comme l'expliquait Sébastien, au final, on arrive à recréer une image. Mais exactement comme quand on va chez le médecin, qu'on passe une radio au rayon X, le rayon X se comporte différemment en fonction des densités et on obtient une radiographie. Et donc là, on obtient une myographie.
Donc on regarde à l'intérieur des pyramides avec un télescope finalement, c'est assez étonnant hein, puisque les télescopes permettent de voir dans l'espace mais aussi à l'intérieur des pyramides et aussi à l'intérieur des volcans, ce genre de des montagnes même, hein, c'est la même technique.
En fait, les muons sont connus depuis longtemps, mais les applications de ces myographies vont exploser dans les années à venir. Alors on imagine très bien ce qui va se passer pour l'archéologie du futur, puisqu'on est en train d'essayer de faire un galop d'essai par rapport à ces techniques, mais aussi dans le monde industriel, où par exemple des industriels qui font des bâtiments, qui ont des bâtiments à entretenir, qui ont besoin de comprendre l'intérieur de ces bâtiments, auront besoin aussi de la myographie. Donc on commence tout juste à réfléchir aux applications aussi industrielles de ces techniques-là.
Et François Scruton, en tant que dessinateur, ça vous évoque quoi, cette façon de regarder l'invisible avec la physique des particules? C'est une rencontre entre la physique, l'archéologie et puis l'imagerie.
Oui, c'est ça qui était intéressant, c'était aujourd'hui d'être dans des confrontations comme celle-là, c'est-à-dire d'être vraiment à la pointe de ce qu'il y a de plus performant dans ces études, parce que vraiment, comme le dit Mehdi, on est à un niveau vraiment, on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui avec les universités avec qui on travaille. Et en même temps, à côté de ça, je trouvais très excitant que le dessin peut encore jouer son rôle. Et curieusement, le dialogue entre les deux est très intéressant, très riche.
Oui, parce que vous dessinez à l'ancienne, avec un crayon, un papier, oui. On est loin de ces technologies d'avant-garde.
Un chapeau, et on a une chaise, et puis on passe des heures à regarder des petits morceaux de la pyramide, et c'est fascinant.
Mais comment concrètement vous faites? Vous vous installez, vous montez sur les pyramides, vous mettez au sol, et puis...
On fait de tout, parce que c'est intéressant parfois d'avoir une position où on est vraiment dessus, et on est vraiment lié à elle. Parfois, c'est intéressant de prendre du recul. C'est un site tellement, tellement fort qu'il y a plein de possibilités. Mais par contre, elle est très difficile à dessiner, vraiment. Et c'est ça qui la rend aussi si fascinante.
Mais pourquoi c'est difficile à dessiner une pyramide? On pourrait croire que c'est simple, hein, c'est un triangle.
Alors, le problème, c'est qu'on lui a enlevé sa peau. C'est-à-dire, elle était tout à fait lisse, et les pierres qui la protégeaient, qui sans doute la rendaient éclatante hein, sous le soleil, maintenant c'est devenu un chaos de pierres.
Mais pourquoi on lui a enlevé sa peau? C'est-à-dire, c'était des pierres qui servaient à protéger les pyramides et ont disparu au cours du temps?
Au cours du temps, sans doute.
Au Moyen-Âge, essentiellement.
Au Moyen-Âge, pour construire le Caire.
Elle a servi de carrière naturelle, et plutôt que d'aller extraire des pierres dans les carrières, la pyramide a été déshabillée de ces belles pierre de Parment en surface lisse de Toura, dont il reste un aperçu au-dessus de la pyramide de Khéphren, qui a encore un chapeau avec ce parement de calcaire. Donc ça nous laisse imaginer à quoi elle pouvait ressembler. Mais aujourd'hui, en fait, on a les pierres de deuxième et troisième rang qu'on voit, en fait.
Donc à l'époque de leur construction, elles brillaient finalement, voilà. C'était blanc et éclatant.
C'était une perfection, les arêtes étaient parfaites. Et je crois que ça devait être quelque chose. Et le sol était aussi, lui aussi, absolument aligné. Et autour de Khéphren, c'était noir, je crois. C'était une pierre noire qui était... Et
les pierres noires qu'on voit, c'est en fait, c'est les restes du dallage à côté de Khéops, du temple qui se trouvait au pied de Khéops.
Et au Moyen-Âge, donc, les habitants du coin sont allés se servir sur les pyramides pour construire les maisons du Caire. En fait, c'est ça que vous dites. Hein.
Les pyramides ont servi de carrière naturel.
Mais là, nous avons en fait un écorché de c'est pyramides.
Ah oui, et il y a aussi d'autres techniques, hein, la thermographie infrarouge par exemple. Alors, vous sondez la chaleur à l'intérieur de la pyramide, c'est ça ?
L'objectif, en fait, est d'étudier le comportement thermique de la surface de la pyramide. Donc l'infrarouge ne permet pas de voir en profondeur, mais il permet d'identifier sur les surfaces énormes que constituent les 16 faces de pyramide qu'on a étudiées, des points d'intérêt, en disant, tiens, à cet endroit, on devrait avoir un comportement thermique homogène, les pierres devraient refroidir au cours de la journée de telle manière, or, on observe des écarts de température. Et ce qui est intéressant, c'est que François, en dessinant, par exemple, s'était mis à un endroit où il avait remarqué un appareillage de pierres qui l'a intéressé, qui a aiguisé son regard, il l'a dessiné et on s'est rendu compte que c'était une zone dans laquelle il y avait une anomalie thermique qu'on a révélée en novembre 2015. Et c'est là où on voit en fait qu'il y a un lien entre l'œil du dessinateur et finalement l'œil de la caméra, puisque nous, en fait, on passe ces caméras thermiques, on essaye d'étudier plusieurs zones et de couvrir l'ensemble de la pyramide. Mais François, lui, son œil avait été attiré par cette zone où on a détecté une différence thermique.
Et les scientifiques n'auraient pas pensé à étudier cette zone. En fait, le regard du dessinateur peut être utile.
Alors le scientifique, lui, il étudie toutes les zones. C'est-à-dire que voilà, son processus, c'est d'aller devant la pyramide, d'étudier le comportement thermique à tous les endroits de la surface de la face, et puis ensuite d'analyser et de voir que dans cette zone-là, il y a des écarts. François, lui, son regard a tout de suite été attiré par cette zone.
C'est ça qui était excitant dans ce projet, c'est que c'est une mission qui change complètement un petit peu la donne. Et en même temps, par certains côtés, retrouve les traditions des très anciennes missions napoléoniennes. C'est le paradoxe. C'est que ce croisement de regards, cette façon de s'interroger, et c'est vrai que le soir, les discussions entre artistes, scientifiques, et puis toute l'équipe de Mehdi, ceux qui sont là aussi pour essayer de comprendre, de rationaliser et d'organiser visuellement comment on pourrait tirer parti, comment on peut arriver à voir, et bien toutes les discussions sont extrêmement intéressantes.
Donc votre but, finalement, hein, c'est de reconstituer en trois dimensions les pyramides, à la fois l'extérieur et l'intérieur. Hein. Vous faites ce qu'on appelle la photogrammétrie laser, en quelques mots, de quoi il s'agit exactement?
Alors, un des objectifs aussi de la mission Scan Pyramides est de prendre l'empreinte digitale la plus parfaite possible, au millimètre près, de ces sites aujourd'hui de Dachour et de Gizeh, c'est-à-dire de les numériser en trois dimensions. L'objectif, un des objectifs, c'est bien entendu de faire un instantané du lieu.
Donc vous avez des drones qui survolent et qui...
Alors la campagne de drones n'a pas encore eu lieu, mais on a fait beaucoup de photogrammétrie. La photogrammétrie, en fait, ça consiste à prendre des milliers et des milliers de photos de différentes zones, et puis ensuite des logiciels vont reconstruire en trois dimensions un modèle de ces pyramides et de ces lieux. On utilise aussi les scanners laser qui, eux, vont balayer les surfaces de pierre et nous donner une information tridimensionnelle de la pyramide. Et l'objectif d'avoir ces modèles virtuels, c'est à la fois un objectif de préservation, mais on en a aussi besoin dans nos modèles de simulation. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire aussi de la simulation parce que quand la myographie nous révèle des choses, on a besoin de pouvoir émettre des hypothèses, disant tiens, à cet endroit, on détecte une zone de sous-densité, on a détecté une cavité, on ne sait pas exactement quelle forme elle a, donc en trois dimensions, on va dessiner différentes hypothèses et des simulateurs de myographie vont nous permettre en fait de tirer des conclusions.
Donc on va venir à ces découvertes que vous avez faites justement. Donc autour de la question, comment sonder les pyramides? Petite pause musicale avec The Bangles, Walk Like an Egyptian, comment marcher comme un Égyptien justement. Egyptian.
Autour de la question, comment sonder les pyramides? Nous sommes avec Mehdi Taïoubi, François Scruton, deux membres de l'expédition Scan Pyramide, qui cherchent à sonder, à voir l'invisible, l'intérieur des pyramides. Alors justement, avec cette technique qui fait appel au muon, vous avez alors découvert déjà des cavités, Mehdi Taïoubi, dans la pyramide de Khéops, c'est ça?
Absolument, dans la grande pyramide, la pyramide de Khéops. Nous avions commencé en fait avec nos partenaires et notamment qui sont aussi co-concepteurs aussi avec l'Institut HIP de cette mission, la Faculté des Ingénieurs.
L'Institut HIP, c'est-à-dire
Héritage, Innovation et Préservation.
D'accord, c'est une...
C'est une association à but non lucratif que l'on a cofondée avec François Scruton et le professeur Agnès Hall, qui est l'ancien ministre de la Recherche égyptien, qui est rattaché aussi professeur à la Faculté des Ingénieurs de l'Université du Caire. Et c'est une mission qui initialement a été conçue, co-conçue avec le professeur Hall et les ingénieurs de l'Université
donc
du
alors,
Caire.
Donc alors, ces découvertes, alors il s'agit de cavités encore inconnues jusqu'à présent, qui étaient inconnues. Alors, précisément, elles sont où? Alors, 105 mètres de hauteur, et il y a quoi dans ces cavités?
Alors, quand on a déployé pour la première fois les télescopes du CEA, comme c'était la première fois qu'on mettait en œuvre cette technique sur la pyramide de Khéops, ce sont des télescopes qu'on utilise à l'extérieur, on les a pointés sur l'arête nord-est de la pyramide de Khéops. Parce qu'on savait que sur cette arête nord-est, à une hauteur de 83 mètres, il y a une cavité que l'on connaît. Une sorte de petite grotte qui fait à peu près 9 mètres carrés de surface. Et pour voir si les télescopes marchaient bien, on les a pointés sur cette arête en disant dans 3 mois, une fois qu'on aura accumulé assez de statistiques, on devrait voir cette cavité connue. Et donc ça permettait en fait de calibrer nos 3 télescopes.
Alors vous dites que dans 3 mois, parce qu'il faut bien comprendre que vos capteurs ne donnent pas une photographie instantanée. Il faut les laisser plusieurs semaines, voire plusieurs mois en place pour qu'ils recueillent suffisamment de muons, c'est ça?
Absolument. Dans l'unité de temps, effectivement, c'est plutôt le trimestre. Par rapport au télescope, pour détecter cette cavité, il nous a fallu à peu près 3 mois. Quand on dépose les émulsions chimiques de l'Université de Nagoya, il faut entre 60 et 80 jours de temps d'exposition, parce que c'est le temps de durée de vie des émulsions. Et pour les scintillateurs, c'est comme les télescopes, c'est du matériel électronique, donc on peut le laisser aussi indéfiniment. Il faut imaginer que si, par exemple, on plaçait un scintillateur pendant une année, deux années, trois années, on aurait en fait une image qui deviendrait de plus en plus précise.
Et vous, actuellement, donc vous avez des capteurs.
Donc aujourd'hui, on est sur une durée. On avait une année de travail, c'est-à-dire que le ministère des Antiquités nous avait demandé de travailler, des Égyptiens nous avaient demandé de travailler pendant un an sur l'année 2016. Et puis ensuite, suite aux découvertes que l'on a faites, la mission a été renouvelée pour une année supplémentaire. Et donc, en détectant la cavité que l'on connaissait, on a eu la surprise de découvrir une cavité similaire, plus haut, à peu près à 110 mètres de hauteur, qui n'est pas visible. Donc on sait qu'elle est là.
Quelle dimension à peu près?
Les mêmes dimensions que la cavité qui se trouve en dessous, puisqu'on a exactement les mêmes types de statistiques en termes de muons. Le même nombre
donc
de muons.
Donc quelques mètres de...
À peu près, je veux dire, c'est une petite grotte qui doit faire à peu près 2 mètres de hauteur et à peu près 9 mètres carrés au sol. Alors aujourd'hui, à quoi ça sert?
Voilà.
On ne sait pas.
Mais a priori, ce qu'on dit, c'est que les pyramides servaient de tombeaux. Donc a priori, on pourrait imaginer qu'elles contiennent que ces cavités contiennent des momies, des corps.
Alors c'était la pyramide est a priori le tombeau du roi. Dans la chambre du roi qui se trouve à 43 mètres au cœur de la pyramide après la grande galerie, il y a un sarcophage. On peut supposer que le roi a été inhumé à cet endroit. La question que posent les cavités de l'arête nord-est qui sont toutes petites, est-ce qu'elles étaient liées par exemple au principe constructif des pyramides? Alors le rôle des ingénieurs, des scientifiques de la mission Scan Pyramides est de découvrir ces structures et de décrire ces structures et d'indiquer à quel endroit elles se trouvent. Et ensuite c'est aussi aux égyptologues, aux architectes et à d'autres disciplines de nous aider à interpréter l'usage de ces structures.
Mais pour
notre rôle est déjà de dire, voilà, on a trouvé une cavité à tel endroit.
Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas dire ce qu'il y a à l'intérieur de la cavité. Les méthodes...
La myographie ne permet pas de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une cavité. La myographie permet de détecter un vide. Donc c'était la première découverte.
Oui.
Et la seconde découverte a été faite sur la face nord de la pyramide, dans une zone que l'on appelle l'entrée de la pyramide, derrière de grandes pierres en chevron, que tous les touristes voient quand ils arrivent sur le plateau de Gizeh, puisqu'on arrive sur la face nord de la pyramide. Et à cet endroit-là, après avoir en fait détecté un certain nombre d'anomalies thermiques, on a déposé nos détecteurs de muons dans le couloir descendant, et au-dessus de ce couloir descendant, il y a une grande cavité aussi, qui s'enfonce dans le cœur de la pyramide, qui a priori pourrait ressembler à un couloir, mais on a besoin de faire plus de mesures aujourd'hui pour déterminer la forme exacte. Et donc, on a une deuxième cavité qui part de la face nord de la pyramide.
Mais et donc, a priori, ces pyramides sont des tombeaux, hein, mais on n'a pas trouvé de corps du roi à l'intérieur du tombeau royal, finalement, à François Scruton.
Non, il y a très, très peu de traces. Il y a... Aucun manuscrit, aucun papyrus ne témoigne de cette période. Donc, c'est vrai qu'il y a de là plusieurs hypothèses, mais il est très possible que le corps ait été enlevé directement après l'inhumation. Ou
peut-être au Moyen-Âge.
Ou peut-être au Moyen-Âge.
La pyramide a été forcée.
Voilà. Ou peut-être qu'il n'a jamais été là. Enfin, ça, c'est plein de... C'est là... Le vrai sujet de ce projet, c'est surtout de comprendre cette extraordinaire horlogerie que représente la construction d'une pyramide. Parce que manifestement, pour arriver en 20 ans, il a fallu 20 ans pour construire Khéops, avec non pas des milliers de gens, d'esclaves fouettés, comme parfois à certaines images.
Ah, ça, c'est un mythe, ça, c'est pas comme ça, non?
Voilà.
C'est-à-dire, vous dites, ce ne sont pas des esclaves comme on le pense habituellement?
Ben, l'archéologue Marc Lehner et le professeur Zahi Hawass, l'ancien ministre des Antiquités égyptiens, ont fouillé pendant longtemps ce qu'on appelle le village des ouvriers, qui se trouve non loin des pyramides, et on sait que ces ouvriers étaient payés en nature, qu'ils étaient à peu près 4000, et qu'ils travaillaient, qu'ils étaient organisés en gangs, et que c'était une organisation extrêmement sophistiquée. Et donc, toute cette imagerie qui a été véhiculée de fantasmes d'esclaves n'existe pas.
Voilà. Mais par contre, c'est au profit sans doute d'une construction qui était très 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 bien gérée et qui permettait de limiter l'effort grâce à des techniques qu'on est en train de découvrir.
Alors justement, nous parlons de cette pluridisciplinarité qui mêle des scientifiques et des artistes, et nous avons évoqué Nicolas Gaudin, musicien du groupe R, et qui était à Khéops et qui a réalisé une empreinte acoustique de la chambre du roi que nous allons...
Ce que vous allez entendre, c'est juste les petits essais que Nicolas a fait très rapidement avec son iPhone pour ensuite pouvoir faire écouter ça à son ingénieur du son ici pour travailler au projet d'empreinte acoustique.
Donc il est entré dans la chambre du roi avec
et il a fait des bruits
iPhone,
avec son iPhone. Donc
on va écouter
Nicolas,
ça.
Que vous allez entendre.
Donc cette chambre du roi, concrètement, ça ressemble à... C'est une cavité de quelle dimension environ ?
C'est un espace très simple, très pur. C'est en cela qu'il est fascinant. Les pierres sont énormes qui la composent. Comme je vous l'ai dit, parfaitement lisse et parfaitement jointive. Et qu'est-ce qu'elle fait comme hauteur ? C'est 3-4 mètres, 4 mètres peut-être ?
Donc de pierres.
C'est un parallélépipède parfait en granit, ouais. qui n'est pas très très grand, mais qui en revanche a une acoustique de cathédrale.
Et le but de Nicolas Gaudin, c'est ensuite de s'inspirer de cette acoustique pour fabriquer des morceaux de musique.
D'abord, cette empreinte acoustique pourrait nous permettre déjà de pouvoir éventuellement se sentir dans cet espace en studio. Ce serait déjà assez fascinant parce que je vous assure que c'est très curieux cet espace. Il a une résonance, il a une durée. Vous imaginez, vous êtes vraiment au cœur de la pyramide. Donc vous avez autour de vous une masse de pierres considérable. Et ça lui donne évidemment une résonance tout à fait unique.
Et pour explorer ces nouvelles cavités que vous avez découvertes, hein, donc d'autres méthodes, par exemple, pourraient consister à envoyer une petite caméra miniature, une sorte d'endoscopie finalement, avec un tout petit trou. C'est comme ça qu'on pourrait faire ?
Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la mission Scan Pyramide. La mission Scan Pyramide reste une mission non destructive et non invasive. Notre objectif est de détecter l'ensemble des cavités non connues à ce jour, de donner le plus de précision possible sur leur emplacement, leur forme, et ensuite de dialoguer avec les égyptologues, les architectes, d'autres disciplines pour émettre un certain nombre d'hypothèses. Mais effectivement, on va très vite atteindre la limite de ce que l'on peut faire avec cette technique d'imagerie.
Oui,
mais il ne nous appartient pas aujourd'hui de savoir ce qui se passera après, une fois qu'on aura donné la certitude au ministère des Antiquités égyptiens que les cavités se trouvent bel et bien là. Et l'autre objet, comme on en discutait tout à l'heure, c'est de préserver aussi de manière digitale ces monuments. On pense souvent, et l'exposition qui a eu lieu récemment, par exemple, au Grand Palais, autour des monuments syriens, que toute la reconstitution 3D, la digitalisation 3D des monuments est importante. Et c'est en ce sens-là aussi que le projet de Nicolas Godin nous intéresse dans le cadre de la mission Scan Pyramides. On pense à préserver les formes, on pense à préserver l'architecture grâce à la 3D, mais très peu de personnes pensent à préserver l'acoustique d'un lieu pour les générations futures.
Et François Skeuten, ce projet a aussi une dimension politique et sociale, finalement, puisqu'il s'agit aussi de valoriser le patrimoine égyptien.
Oui, parce que, vous le savez, Daesh, par exemple, s'attaque directement à ce patrimoine, et d'ailleurs a même évoqué la pyramide de Khéops. Donc, symboliquement, ce sont des lieux qui expriment une culture, qui expriment une histoire, et qui sont si importants. Et le projet aussi très différent, parce qu'il rompt avec une forme de néocolonialisme qui a longtemps été un petit peu l'apanage de certains archéologues. Et on travaille avec beaucoup d'humilité, on travaille vraiment en relation très forte avec les Égyptiens. C'est une façon de bousculer un petit peu un certain nombre de réflexes sur cette façon d'aborder l'histoire.
Alors, je rappelle que vos dessins sont actuellement visibles au Palais des Beaux-Arts de Lille. Ne ratez pas cette exposition.
Et pas seulement les dessins, d'ailleurs, c'est tout le projet de Scan Pyramide qui est exposé, avec même des détecteurs à muons. Donc, on peut voir les muons sur une plaque sensible.
Donc, pour ce voyage au cœur des pyramides, Mehdi Taïoubi et François Skeuten, merci.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
C'était Autour de la question avec Capoline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous demain, nous parlerons des flots de galaxies. Portez-vous bien, merci de votre fidélité et dans quelques instants, les infos sur la Radio Mondiale.